France Inter.
Journal François Chagnaud, bonjour François.
Bonjour à tous.
À la une du journal, 61 milliards de dollars pour changer le cours de la guerre en Ukraine.
Mais c'est le montant de l'aide américaine votée hier à la Chambre des représentants après des mois de tergiversations. Mais sur le terrain, certains Ukrainiens n'ont plus vraiment d'espoir, vous l'entendrez. Référendum décisif aujourd'hui en Équateur, le pays est gangréné par la violence liée au narcotrafic. Laurent Wauquiez sommé de s'expliquer sur un voyage au Japon aux frais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le ras-le-bol des pharmaciens face à leurs difficultés économiques et la pénurie de médicaments. Et puis si les femmes peuvent participer aux Jeux Olympiques modernes, c'est grâce à une figure méconnue, portrait d'Alice Mia. En fin de journal, et l'Olympisme, vous en parlerez avec votre invité, Ali.
À 8h20, l'historien Pascal Blanchard viendra nous parler de cette histoire mondiale de l'Olympisme, une somme qui raconte le monde par le prisme de l'univers du sport. On attend vos questions, vos réactions, votre passion éventuellement pour les JO, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
61 milliards de dollars donc pour redonner du souffle à l'effort de guerre en Ukraine. La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé hier une nouvelle aide militaire pour Kiev. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Et donc ce vote après des mois de débats acharnés et d'opposition des élus pro-Trump.
Oui, par 311 voix contre 112, dont une large majorité de démocrates indispensables à l'adoption de cette enveloppe, les républicains se montrant pour beaucoup hostiles à l'idée de signer des chèques en blanc à Kiev, et en particulier un groupe de Trumpistes qui bloquait cette aide militaire depuis des mois. Leur chef de file et patron de la Chambre, Mike Johnson, sera donc finalement passé outre pour faire voter ce plan de 61 milliards de dollars, une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire, a immédiatement salué Joe Biden. Le président américain est prêt à signer ce texte dès qu'il sera sur son bureau. Il faudra d'abord un vote du Sénat, possiblement mardi prochain, mais cela ne devrait pas poser de problème.
Et les élus de la Chambre qui ont aussi voté, entre autres choses, des enveloppes d'aide pour Israël, mais aussi pour Taïwan.
Oui, un peu plus de 8 milliards de dollars pour Taïwan et les autres alliés de l'Amérique dans le Pacifique, un vote de consensus à 385 voix contre 34 à peine, autant dire que la menace chinoise est un rare sujet d'entente dans une assemblée minée par les divisions. Cette enveloppe doit permettre notamment de développer des infrastructures pour les sous-marins ou de reconstituer les stocks de matériel militaire de Taïwan, revendiqué par Pékin, car c'est bien la Chine qui reste l'adversaire stratégique numéro 1 de Washington, et ce vote ne sera pas le seul motif de colère pour Pékin dans les prochains jours, car la Chambre a également adopté la possible interdiction de TikTok dans un futur proche, ce réseau social ultra populaire accusé d'être à la solde de la Chine.
Et pendant ce temps, les Ukrainiens vivent avec la guerre au quotidien. Certains finissent par oublier le danger à force de voir passer les missiles au-dessus de leur tête, une forme de fatalisme qu'on observe notamment dans l'Est, comme dans ce village Voltchansk, à 6 km de la frontière russe, avec ce pêcheur ukrainien rencontré par nos envoyés spéciaux Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov.
Nicolas a posé son tabouret et sa vieille canne à pêche à l'endroit qu'il préfère, au bord de la rivière, malgré le son lointain des bombardements.
On s'est habitué. Il y a une semaine, j'étais assis là. Il y a eu 8 frappes sur le village. Des maisons ont été détruites.
Nicolas a 73 ans. Il dit que pêcher est apaisant. Et il repioche des verres dans sa petite boîte jaune, impassible face au tir. Cela semble venir d'Ukraine et frapper la Russie.
Vous voyez, c'est tout près. À chaque fois, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'abord le tir, et 6 secondes après, l'explosion.
Le regard vers la frontière, il est soudain ému.
Qu'est-ce que cette guerre apporte à nous, à eux? De chaque côté, il y a des morts. On maudit tous cette guerre.
À ses pieds, dans un sachet plastique, 3 gardons fraîchement pêchés s'agitent encore. Les poissons ont-ils peur de la guerre? Et lui, Nicolas?
Moi, ça m'est égal, j'ai déjà vécu ma vie. Si je meurs maintenant, ce sera le destin. C'est la vie, comme on dit.
Un reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. C'est en pleine crise sécuritaire et énergétique que plus de 13 millions d'électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui. En Équateur, le président Daniel Noboa convoque un référendum sur la sécurité, la justice et l'emploi. Le pays est en proie à une crise sécuritaire sans précédent, Eric Sanson.
Autoriser l'extradition de ressortissants équatoriens, permettre l'intervention des forces armées dans la lutte contre le crime organisé et aggraver les peines en cas de crime grave, les questions liées à la sécurité sont au cœur du vote de ce dimanche. Après l'assassinat de trois maires ces dernières semaines, les Équatoriens ont compris que la guerre actuelle contre les gangs n'était qu'un demi-succès, selon l'analyste Gustavo Hich.
La présence des militaires dans les rues et le contrôle des prisons a donné une fausse sensation de sécurité. Mais cette perception est en train de changer au vu des derniers événements violents qui contredisent le discours officiel.
L'an dernier, près de 8000 morts violentes ont été enregistrées en Équateur, le taux d'homicide le plus élevé d'Amérique latine. Cela a provoqué une prise de conscience de la population, selon le général Paco Moncayo, ex-chef de l'état-major des forces armées.
Ce pays est devenu un narco-État gouverné par la narcopolitique et son pouvoir est toujours important.
Face à l'opposition des indigènes et de la gauche, le président Noboa a fait de ce référendum une étape centrale pour briguer la réélection. Quito, Eric Sanson, France Inter.
En France, les opposants socialistes et écologistes du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes réclament de la transparence à Laurent Wauquiez. Le journal Le Monde révélait hier le voyage aussi confidentiel que luxueux du président de région au Japon en mars. Louis Thomann, il n'en faut pas plus pour que l'opposition tacle un nouveau dîner des sommets.
Le voilà qui récidive, attaque d'emblée le groupe socialiste, écologiste et démocrate. Pour ce déplacement au Japon, que les élus découvrent avec l'article du Monde, le montant du voyage comme du dîner n'est pas connu. Mais le programme et le plan de table inquiètent. 150 chefs d'entreprise français et japonais attablés autour de Laurent Wauquiez pour un repas composé par un chef étoilé de Tokyo. Ça rappelle aux oppositions le fameux dîner des sommets à plus de 100 000 euros organisé en 2022 autour du président de région aux frais de la collectivité. Rien à voir ici, nous explique l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises par mail. La région n'est pas l'organisatrice du voyage, mais cet organe. C'est cette agence qui a monté le voyage au Japon et organisé ce cocktail pour attirer les investisseurs chez nous. Mais elle ne communique pas de prix, ni pour l'un ni pour l'autre, car les montants ne sont pas consolidés à ce stade, nous dit-on. Et ça inquiète Johan Seiza, vice-président du groupe socialiste. Il rappelle que l'agence est financée à 80% par l'argent public. Comme lui, son homologue des écologistes Maxime Meyer tacle une opacité des dépenses par le président de région.
Louis Thomann de France Bleu, Saint-Étienne est dans l'affaire du dîner des sommets. Le parquet national financier enquête sur des soupçons de favoritisme, de recel de favoritisme et de détournement de fonds publics. Les pharmaciens appelés à baisser le rideau le 30 mai prochain, une journée de mobilisation à l'appel de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, l'une des deux organisations de la profession. Ce syndicat dénonce notamment des difficultés économiques et la pénurie de médicaments, Sandy Dauphin.
D'après l'USPO, 36 pharmacies ont baissé définitivement leur rideau au mois de janvier. C'est plus d'une par jour. Et si rien n'est fait, le rythme va se poursuivre, estime son président Pierre-Olivier Vario.
L'économie d'officine va mal. 80% de notre rémunération se fait avec des médicaments dont le prix est fixé par l'État. Donc on a peu de revalorisation depuis très longtemps et l'inflation a galopé. La négociation s'est ouverte en décembre 2023. Elles sont en cours, elles traînent.
Autre grief, les pénuries de médicaments persistent malgré les efforts de l'Agence de sécurité du médicament. Une perte de temps et d'énergie pour les pharmaciens, explique le président de l'USPO qui tient une officine à Dijon.
Les antibiotiques, ça on en parle souvent, les anticancéreux, il y a des antidiabétiques, des ruptures de médicaments qui font que ça consomme énormément de temps à chercher ces médicaments, mais aussi à gérer avec les médecins les pénuries quand un patient a besoin d'un traitement auquel nous n'avons pas accès. Ça nous consomme énormément de temps.
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine appelle à une journée de mobilisation le 30 mai, mais avant cela, à une grève des gardes le week-end de la Pentecôte.
Et les pharmaciens alertent également sur la volonté du gouvernement de vouloir faciliter la vente de médicaments sur Internet. Un anniversaire décisif pour la démocratie française. Il y a 80 ans, jour pour jour, les femmes obtenaient le droit de vote. Le combat continue, lance Yael Braun-Pivet dans les colonnes de la Tribune. Dimanche, la présidente de l'Assemblée nationale pointe notamment que seuls 37% des députés sont aujourd'hui des femmes. Les symboles des Jeux Olympiques, ce sont les anneaux, la flamme et bien sûr leur père, Pierre de Coubertin. Mais aujourd'hui, on vous parle plutôt d'une pionnière des JO, Alice Milla, l'organisatrice des premiers Jeux. Jeux Olympiques féminins de l'ère moderne. C'était en 1922. Alors, si vous ne connaissez pas son nom, c'est normal. Il est tombé dans l'oubli. Et c'est ce qu'entend corriger sa biographie publiée aujourd'hui, Fanny Imbert.
C'est un refus net que lui oppose Pierre de Coubertin à la tête du comité olympique lorsqu'Alice Milliat lui demande de faire concourir les femmes aux épreuves athlétiques. Qu'à cela ne tienne, elle organisera ses propres Jeux en 1922 et c'est au stade Pershing à Paris que ça se passe. Un événement historique que raconte Sophie Danger dans sa biographie consacrée à la pionnière des JO féminins.
Il va y avoir une énorme cérémonie d'ouverture, les drapeaux levés, une chef de délégation. Elle va faire venir un truc incroyable, un contingent d'Américaines. Il y aura aussi les Anglaises. On va avoir des Tchèques, on va avoir des Suissesses et puis bien évidemment la France. Il y a un programme assez alléchant dans lequel on a des courses, dans lequel on a des lancers, on a des sautés et on a aussi des épreuves longues avec 1500 mètres assez incroyables.
Née dans un foyer modeste à Nantes, passionnée d'aviron, Alice Milliat militera toute sa vie pour faire exister les sportives sur la scène internationale.
Elle trouve que en fait le sport c'est un droit de rentrer dans un stade et c'est un droit à la santé aussi. Elle voit pas pourquoi les femmes en seraient privées. C'est cette formidable emmerdeuse qui a réussi grâce à ce caractère incroyable à faire que nous, les femmes, puissions participer à des compétitions internationales, mais avant tout, puissions avoir le droit, nous aussi, de pratiquer n'importe quel sport.
Un siècle plus tard, la parité est enfin quasiment atteinte pour ces JO de Paris 2024, avec 152 épreuves féminines pour 157 masculines.
France Inter, 8h12, le journal des sports.
Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Alors pour l'actualité sportive de ce dimanche, et c'est le dernier monument du printemps, Liège-Bastogne-Liège sur les routes de Belgique.
Oui, la doyenne qu'on annonce agitée concernant la météo et évidemment un duel à suivre entre Tadej Pogacar et le néerlandais Mathieu Van Der Poel, même si Fanny Lechevestrier, le Slovène, semble un cran au-dessus.
Je roule vers le soleil et je n'ai pas l'intention de me retourner, même en tête, un an après s'être fracturé le poignet. Voici donc Tadej Pogacar de retour à Liège, tout sourire et avec cette chanson slovène publiée sur les réseaux sociaux. Même son grand rival Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, semblait résigné hier lors de la présentation des équipes.
Ça va être très difficile, il y a beaucoup de coureurs qui sont mieux dans ce type de course que moi. Si je veux vraiment essayer de gagner cette course, je dois changer un peu ma préparation.
Surtout que pour Guillaume Martin, sixième à Liège l'an dernier, la course suit parfaitement aux qualités de grimpeur de Poggi, déjà vainqueur ici même en 2021.
Sur le papier, un coureur comme Pogacar est supérieur à l'ensemble du reste du peloton. Après, on a vu mercredi, il peut se passer beaucoup de choses avec la météo, ça redistribue un peu les cartes.
Mercredi, où seuls 44 coureurs ont pu finir la flèche wallonne, laissant les corps meurtris, raconte Lilian Calmejane.
Ouais, j'ai eu très froid pendant longtemps, même en arrivant dans le bus, j'ai pas pu aller à la douche pendant 30 minutes, je suis resté à poil sur mon siège. Toute la semaine, on regarde la fenêtre dans la chambre et on voit la pluie, on voit le froid. On va pas se mettre à broyer du noir, mais ça va pas être terrible, terrible.
Avec même de la neige annoncée en fin de matinée du côté de Bastogne, juste avant le passage du peloton.
Et premier tour de pédale, peut-être donc sous la neige, à partir de 10h15, les femmes suivront à la mi-journée.
Et le football et PSG Lyon, une affiche en version masculine et féminine ce week-end.
Même si Lyon a perdu de sa superbe depuis quelques saisons, un duel face au PSG reste un choc indémodable de la Ligue 1. Ce sera ce soir au Parc des Princes, en conclusion de la 30e journée. Et après l'euphorie européenne, les Parisiens s'acheminent vers un 12e titre de champion. Dans l'après-midi, duel au sommet entre Brest et Monaco, le deuxième contre le troisième. Heureux en Coupe d'Europe mais malheureux en championnat, Marseille se déplace à Toulouse. Et la version féminine de PSG Lyon, c'était la demi-finale aller de la Ligue des Champions hier soir, victoire de Lyon 3-2 à domicile alors que les Parisiennes menaient 2-0 jusqu'à la 80e minute. Le tournoi destination de rugby et les Françaises sont au Pays de Galles cet après-midi. Quatrième match avant la finale annoncée dans une semaine contre l'Angleterre. Pour l'instant, elles sont invaincues mais sans toujours convaincre. Il faut devenir une équipe que l'on craint, estime la pilier des Bleus, Assia Kalfaoui.
On a toujours besoin de prouver. Aujourd'hui, je pense que les équipes elles ne craignent pas assez. C'est sûr qu'on a envoyé du jeu, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se crée une image où on est une équipe qui est injouable. C'est le rugby, c'est aussi une guerre mentale, on va dire. Et si on arrive dans un match et on sait que l'adversaire nous craint, c'est aussi un avantage pour nous, car on peut prendre le dessus sur le match.
Et ce match entre Pays de Galles et France se jouera à 16h15 à Cardiff. Le top 14, et hier soir, Toulon a fait chuter Toulouse. Victoire sur le fil, 20-19. Le Stade français prend donc la poudre d'escampette en tête du classement après son succès 28-24 contre Bayonne. Ce soir, l'Union Bordeaux-Bègles accueille Clermont.
Merci Jérôme Val.
C'était le journal de François Chagnot. Tout de suite à 8h15, le temps.
La météo avec Euromaster. toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers, véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Camille Esmeault, la météo, et ce n'est toujours pas le moment de ranger son manteau d'hiver.
Et non, puisque le froid s'installe au moins jusqu'à mercredi prochain. Alors aujourd'hui, on est 4 à 5 degrés en dessous des normales, avec des gelées fréquentes ce matin. Vous avez moins 3 à Rodez, moins 2 à Aurillac, 1 degré à Évreux, 2 à Mont-de-Marsan, 3 à Strasbourg, 4 à La Rochelle, 5 à Lille ou encore 7 à Avignon. La limite pluie-neige baisse sur les massifs de l'Est, le massif central et les Alpes du Sud. Et cet après-midi, vous aurez 15 à 19 au Sud, 21 près de la Méditerranée, 8 à 14 sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes.
Et le soleil est toujours présent à l'ouest.
Et oui, et sur une bonne moitié sud, l'instabilité se concentre sur l'est aujourd'hui. Ce matin, on trouve déjà des averses dans les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Elles vont s'élargir cet après-midi à la Normandie, l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le sud des Alpes et la Corse, avec des orages qui pourront éclater sur le nord-est, les Alpes-Maritimes. À noter aussi le Mistral et la Tramontane qui continuent de souffler assez fort aujourd'hui.
Merci Camille et merci à vous d'écouter Inter, il est 8h17, géopolitique. Mouah.